Vendredi le 18 octobre. Salut tout le monde et surtout bienvenue à Sortie de zone avec aujourd'hui Jean-François Tremblay et Alexandre Pratt de la presse, Jérémy Rainville du 98.5 et moi-même Mario Langlois. Bien content de vous retrouver au lendemain d'un match historique.
On se ramène la rondelle dans le fond de la zone, on peut enfin faire des changements. Cousins fait pression en zone offensive, passe dans l'enclave, mettez là, c'est goal! Victor Mettez son premier but en carrière dans la Ligue nationale! Enfin!
Tout le monde est plein de sourire.
Tout le monde est debout!
Vous souvenez-vous, les gars, d'un but qui a semé autant de joie dans l'équipe, chez les partisans, chez les observateurs, et je dois vous dire qu'après avoir vu Victor Mété faire face au peloton d'exécution cette semaine, j'étais particulièrement heureux de le voir marquer.
Avec cette folie-là, non. Ben, il doit avoir des buts en série là, qui ont une plus grande valeur pour l'équipe, mais pour un joueur, pour ce qu'il a traversé, pour ce que c'était, je me rappelle pas, non.
Ben écoute, mon fils hier m'a envoyé un texto pendant le match. Il écoutait le match, j'étais au Centre Bell, et il a commandé en ligne un chandail de Victor Mété après le but. C'est tout dire du moment historique que nous avons vécu.
Un connaisseur. Est-ce que vous faisiez partie du peloton d'exécution, les gars? Je veux juste savoir,
oui,
Alexandre et Jean-François.
Totalement, je l'assume, oui.
Oh!
Et j'avais devoir dire que j'ai dû être son plus grand défenseur au cours des dernières années. Un des plus grands défenseurs. Ouais. Ça a vraiment été...
Je comprenais
les critiques, mais j'ai toujours été du côté qui croyait que Victor Mété avait plus de qualité que de défauts.
Jérémy?
Bien content pour Victor Mété, soyons honnêtes. Je pense qu'il a attendu assez longtemps. Puis tu as raison de mentionner que tout le monde était souriant lorsque Mété a marqué. C'était un match qui était plate. Et là, ça a mis de la passion un peu là-dedans. J'ai l'impression que ça a été la bougie d'allumage pour qu'il se passe quelque chose au Centre Bell, parce que sinon, match soporifique où le Wild un peu croche avec le Canadien un peu croche. Merci, Victor Mété, de nous avoir donné un peu de passion dans le match. Et merci pour ton filet, enfin.
Ben, peut-être pour renchérir sur le fait que c'était pas le plus gros divertissement ou le match le plus spectaculaire ou intéressant, c'est que dans le choix des étoiles, ma blonde me demande justement après le match, qui tu penses que vont être les étoiles. Puis tu sais, il n'y a pas personne qui s'est démarqué, fait que tu vas prendre les gars qui ont marqué leur premier but en carrière, puis c'est ça que ça nous a donné. Mais il reste qu'il y a toujours un élément rassembleur pareil. Vous avez vu Shea Weber, quand il est allé prendre Mété dans ses bras? Moi, je crois aux intangibles dans le monde du sport. Puis on nous raconte souvent qu'il y a une belle chimie, qu'il y a une belle ambiance dans ce groupe-là. Jean-François, t'es peut-être de nous tous le mieux placé pour l'observer sur place quand tu vas dans les pratiques, etc., etc. Mais les images qu'on a vues, là, la caméra qui a balayé le banc, c'était vraiment unanime. Les gars étaient vraiment contents pour Mété, là.
C'était l'angle principal de mon résumé du match, d'ailleurs, de mon analyse du match. C'était ce moment. C'est un duo qui avait été critiqué. Victor Mété a été très critiqué ces derniers jours. Shea Weber aussi, d'une certaine manière.
Ben
on parle de sa vitesse. Je veux dire, on n'est pas aveugle non plus. Là. On voit bien que c'est pas Yvan Cournoyer sur la glace. Là. Alors, il y avait les projecteurs étaient braqués vers eux. Victor Mété qui marque ce but-là. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, tu le disais, Mario, c'est la réaction de Shea Weber après ce but-là. Beaucoup de joie. Va chercher la rondelle. A été le dernier à le féliciter avec beaucoup de conviction. Mais c'est après le match aussi où j'ai demandé à Shea Weber. Il a marqué ce but-là. On va parler beaucoup de ce but-là. Mais est-ce que tu voudrais nous parler un peu de son jeu défensif? Et c'est là que Shea Weber, je trouve, a donné sa réponse la plus intéressante, où il a fait un plaidoyer du jeu de son coéquipier. Alors, bon, qu'est-ce que ça veut dire là? Je sais que
team first de dire Marc Bergevin.
Non, mais c'était pas le moment de planter Victor Mété, évidemment. C'est sûr que chez Weber, elle a dit des belles choses, mais je trouvais que ça parlait beaucoup ce moment-là.
Mais moi, le plus beau geste hier, en fait, c'est quand Mété a été élu première étoile. Je suis pas sûr que les gens l'ont vu à la télé. Mais donc Mété a élu première étoile, il va lancer les rondelles derrière, il les a lancées vraiment très très fort. Là, j'ai eu peur qu'il assomme quelqu'un. Il s'était pas vraiment pratiqué avant. Mais après ça, il
comme Gallagher d'ailleurs, je trouve qu'il est pas très délicat quand il donne ses rondelles.
Mais après ça, il s'en allait vers le vestiaire, puis il y avait Marc Denis sur la glace pour faire les entrevues. Il va être comme hey Victor, c'est
parce qu'il connaît pas la procédure.
Il connaissait pas la procédure des étoiles. J'ai trouvé ça quand même assez cute dans les circonstances.
Vraiment. Et là les gars, une petite question quiz, là, peut-être que vous avez vos stats pas loin, donc je vais pas vous piéger, mais pour ceux qui nous écoutent, là, la question quiz est la suivante. Alors, quelle est la vraie fiche des plus et moins de Victor Mété depuis qu'il joue avec le Canadien de Montréal? Est-ce moins 144, moins 78, moins 28 ou plus 22?
J'arrête.
Je vais y aller avec le plus 22, moi.
J'irai aussi avec plus 22.
Ouais. J'ai, la façon que tu as posé la question, Mario, j'ai l'impression qu'il y a un piège et que c'est plus 22 la réponse.
Ouais, c'est vrai que j'étais pas très subtil. J'aurais dû donner des choix de réponse pour plus vous compromettre, mais le croyez-vous quand vous entendez ça, là? Puis quand vous avez fait partie du peloton d'exécution, en étiez-vous conscient, les gars, l'heure est au meilleur coup de poste? L'occasion est belle au lendemain du premier but en carrière de Victor Mété.
Mais je trouve que l'année dernière, quand même, il y a eu des bons moments à Victor Mété.
Un des meilleurs pour les buts pour quand il est sur la glace. Ouais, très peu de buts accordés à 5 contre 5.
Mais ça, c'est dit, moi, le problème, en fait, c'est son potentiel qui reste limité. C'est pas parce qu'il a marqué un but hier qu'à mon avis, il est un défenseur de première paire de la Ligue nationale. Je suis convaincu que Marc Bergevin et Claude Julien pensent la même chose que moi.
Bien, c'est sûr. Puis en plus, Claude Julien en a parlé cette semaine, mais je pense que ce qu'il faut regarder, c'est que Victor Mété, premièrement, est sur la première paire de défense chez Canadiens de Montréal avec Shea Weber, donc doit jouer habituellement avec les meilleurs attaquants. C'est assez facile de cette façon-là de récolter, je dirais pas facile de récolter une fiche positive, mais c'est plus favorable de récolter une fiche positive. Tu sais, à un moment donné, t'as beau critiquer Victor Mété, mais le gars peut juste te donner ce qu'il a. C'est le Canadien qui l'a placé dans une situation peut-être qui n'est pas la bonne place pour Victor Mété, mais soyons honnêtes, le coup de patin de Mété est un des bons coups de patin des défenseurs de la Ligue nationale de hockey. Dans son territoire, c'est pas toujours facile, mais offensivement, il y a des bonnes passes. Là, il a marqué. Ça fait longtemps qu'il n'a pas marqué de but, mais sa mobilité, pour moi, c'est quelque chose d'intéressant. Fait qu'avant de dire c'est pas un bon défenseur, il faut juste comprendre qu'il est juste peut-être pas à la bonne place, puis ça, je suis convaincu que
sauf
tout le monde
que
va
c'est important. Où il joue, c'est important. Il y a quand même des minutes importantes aussi dans un top 4. Là, pour un jeune de son âge, il y a 20 ou 21 ans, il n'y en a pas tant que ça. Là, des
mais c'est le Canadien qui ne devrait pas le placer là du tout. Moi, selon moi, le Canadien doit, en aucun temps doit
ils
le placer là.
Ils n'ont pas meilleur en ce moment.
C'est ça le problème.
Puis les gars, je vous rappelle, puis je vais corriger une erreur que j'ai commise tout à l'heure. Il est plus 23 à l'issue du match d'hier. Je vais vous poser un petit quiz. Dans les deux dernières saisons, chez Weber, d'après vous, est-ce qu'il est à moins 5, moins 8, plus 5 ou plus 7?
Ah ben là,
je plonge à moins 5.
Okay. Moins 5 aussi.
Jérémy?
Ouais, bah, il y a l'air qu'un plus 7.
T'as gagné, Jérémy? Ah!
Parce que Jérémy a ouvert hockey database.
Ben oui, voilà. Vous avez compris. Non, mais je trouve ça plaisant de s'amuser avec ça. Perception et réalité. Puis je dis pas que ces stats-là, de plus et moins, disent tout, là, maintenant, avec tout ce qu'on a comme statistiques. Mais il reste que vous allez m'expliquer une affaire, les gars. Puis moi, c'est ça qui m'a fait réagir à l'émission de mercredi aux amateurs de sport. On s'est pas reparlé, nous, depuis mardi. C'est que j'ai eu l'impression que le soir et le lendemain, Jérémy, Jean-François Tremblay, Alexandre Pratt, avez-vous senti que c'était un tir groupé vers cette paire de défense-là qui, à mon avis, pour revenir au match de mardi, même s'il se retrouvait avec un moins deux, n'était pas en cause directement. Il y a tellement de séquences. Premièrement, un surnom, mauvais changement, les gars et subissent un 3 contre 2, un excellent tir de Tyler Johnson. Une fin de présence en première période où Dano prend la mise en jeu en territoire défensif parce que Claude Julien ne lui fait pas assez confiance. Envoie Kotkaniemi quand on sort de la zone. Kotkaniemi embarque sa glace et se retrouve pris dans sa zone. Et comme joueur de centre, il a prouvé ses limites dans le territoire défensif. Je dis pas que c'est juste de la faute de Kotkaniemi, mais pourquoi donc tout à coup unanimité envers la paire Mété-Weber qui serait un problème au lendemain de cette défaite-là. Là. Moi, j'ai pas compris, les gars. Je veux bien qu'on questionne le travail des choix de Claude Julien, des paires de défense, mais expliquez-moi.
OK, je vais plonger, je vais m'essayer. Mais rappelez-vous, je suis un partisan de Victor Mété et de son jeu.
Oui, mais on t'écoute, Jean-François,
mais
pas de problème.
Je pense que le petit gabarit de Victor Mété est son plus grand handicap. Il perd beaucoup de batailles à un contre un le long de la rampe contre les gros joueurs des meilleurs trios adverses. C'est son plus gros problème selon moi. Et Shea Weber n'a pas la mobilité, l'a probablement jamais eu, la mobilité d'aller l'aider, d'aller le sortir du trouble. Et après ça, Victor Mété a tendance parfois à remettre Shea Weber dans le trouble. Alors c'était contre le Lightning. Ça a paru plus que contre d'autres adversaires, j'ai l'impression. Et c'est pour ça que la conclusion du match a été que ce duo-là avait des difficultés. Mais je reste un fan de Victor Mété.
Okay. Alexandre, je veux t'entendre. Et j'ai
non, mais moi, je reviens...
Les beaux chandails de ton fils, by the way.
Il va valoir très cher.
Je reviens. Oui, d'ailleurs, il l'a pris parce qu'il veut dire « Je vais être là avant la vague. Je vais être là avec tout le monde. »
Ah, c'est bon.
Mais moi, je trouve que Victor Mété est... très limité. Je trouve que son potentiel est limité. Je suis vraiment content qu'il ait marqué hier parce qu'honnêtement, humainement, je pense que c'était rendu vraiment c'est très difficile. Je peux tout à fait m'imaginer la situation dans laquelle il était. Pour moi, c'est pas un défenseur d'une paire numéro un dans la Ligue nationale. Ça ne le sera pas à court terme non plus. C'est pas un joueur qui a un tir remarquable. Mm-hmm. C'est même un problème. C'est un joueur qui fait à peu près pas de mise en échec. Là, j'ai pas la statistique devant moi, là, mais je pense que l'année dernière, c'est en bas de 10 là, pour l'année.
Mm-hmm. Oui, oui.
Je pense qu'il y en a deux cette saison. C'est un joueur qui a quand même, son apport est plutôt limité. Puis si on le compare, même, moi, j'aime plutôt Brett Kulik. Je suis plus de l'école Brett Kulik. Je trouve j'aimerais ça, en fait, voir Weber avec Kulik. J'aimerais vraiment ça, voir ce que ça pourrait faire. Weber est quand même dans les meilleurs pointeurs du Canadien aussi en défense. J'aimerais vraiment voir cette paire-là. Allez.
Voulez-vous dire, les gars, puis peut-être, Jérémy, tu peux répondre en premier, puis avant que je fasse entendre, parce que là, ça nous mène, parce que Claude Julien réagit à ça. Ben, écoutons donc Claude Julien tout de suite, je pense. Ça va mettre la table pour la suite.
Écoute, je travaille avec ce que j'ai, puis ça veut pas dire que je suis pas satisfait. C'est un gars qui bouge bien la rondelle, là. Mais tu as eu la réponse déjà de Marc. Je pense qu'on cherche un défenseur gaucher. Ça n'enlève rien à nos défenseurs comme c'est là, mais ça les positionne peut-être dans un meilleur poste.
Donc, c'est maintenant officiel. La pancarte est en avant de la bâtisse. Le Canadien cherche un défenseur gaucher. Avant d'explorer les possibilités, les gars, est-ce que vous me suggérez que si un nouveau défenseur gaucher qui se joint à l'alignement, mettez tombe 7, 8e ou à Laval, Jérémy?
Attendez une minute. Là, moi, je veux juste m'exprimer sur Claude Julien, puis j'ai beaucoup de respect, puis c'est pas mon genre de second-guesser un entraîneur, mais pour moi, c'est inacceptable de sortir publiquement puis de dire ça. C'est inacceptable.
J'étais très surpris, moi, Jérémy.
Écoute, j'ai l'impression que Claude Julien avait été un peu menotté dans le point de presse, puis il a sorti ça en disant, ben regarde, les boys, vous comprenez que, faut qu'on comprendre que tu joues contre le Lightning de Tampa Bay qui, l'année passée, a dominé de bord en bord la Ligue nationale de hockey. Vous allez me dire, cette année, en début de saison, c'est pas le cas. Vous avez raison, sauf que cette équipe-là va reprendre un certain tempo et va redevenir une équipe dominante. Donc, il y a de fortes chances qu'il y ait bien des défenseurs à travers la Ligue nationale de hockey qui se fassent brûler cette saison. Jean-François, t'as parlé de l'incapacité de Victor Mété de gagner ses batailles un contre un dans son territoire. Je te dirais, il y a un gars comme Samuel Girard avec l'Avalanche du Colorado qui, avec le même genre de mobilité, je dis pas la même capacité offensive, mais même genre de mobilité, arrive à trouver, à part quand il se fait ramasser par Ovechkin, mais arrive à trouver un certain tempo et être en mesure de sortir avec la rondelle. Maintenant, je pense que le problème numéro un a été bien plus grand que Victor Mété, bien plus grand que chez Weber, a été d'un collectif difficile défensivement. C'est-à-dire, il y a des gars qui, eux autres, là, l'année passée, ont connu des bonnes saisons, puis là, en début d'année, ils veulent avoir des points. Fait que donc, on triche, on descend pas, on donne pas d'option aux défenseurs, puis là, tu te ramasses avec un Victor Mété qui doit faire son travail et le travail de chez Weber, parce que Weber est pas assez rapide pour aller chercher la rondelle. Donc, encore une fois, je reviens, avant de commencer à crucifier Victor Mété, faut peut-être regarder le Canadien dans quelle situation on met le jeune. Tu sais, le jeune, là, il y a des grosses bottines à chausser, puis honnêtement, pour sa capacité, je trouve qu'il fait quand même sa job, mais c'est aux Canadiens de faire le boulot. Puis une sortie publique comme ça, pour moi, c'est, je sais pas, ça rentre mal dans mon oreille. Là.
J'ai trouvé ça particulier et veut pas, ben Claude Julien nous a tous renvoyés à la planche à dessin puis à regarder qu'est-ce qu'il y avait disponible comme défenseur gaucher. Ça fait plusieurs années que Marc Bergevin ne trouve pas de solution à gauche de chez Weber ou à gauche de qui vous voudrez là sur une première paire, les gars. Est-ce que tout à coup, ce gars-là devient disponible parce que Claude en parle publiquement?
Le joueur vient pas disponible, mais pour reprendre un peu ce que rebondir un peu ce que Jérémy dit, que Claude Julien dise ça, je veux dire, c'est pas une... il a dit l'évidence. Tout le monde le sait. Je veux dire, Marc Bergevin s'est jamais caché. Il a couru après Calvin DeHaan sans succès, il a couru après Jake Gardiner. Puis là, on regarde, là, si on descend la liste de défenseurs gauchers qui sont passés de l'organisation, que ce soit par des échanges, par des signatures comme joueurs autonomes, par le repêchage, depuis le jour de l'échange entre Piquet-Souban et chez Weber, je veux dire, c'est hallucinant. Là. On en trouve 15 à peu près. Alors, que Claude Julien ait dit ça, je suis d'accord, c'est surprenant. Il a peut-être été menotté dans le point de presse, mais je veux dire, d'un autre côté, c'est pas une surprise.
Ben moi, je trouve pas ça surprenant. Marc Bergevin, au mois de septembre, quand on lui a demandé « Est-ce que tu es à l'aise avec ton trio présentement ou t'aimerais rajouter du renfort? » Il a dit « Oui, oui, je suis à l'écoute si le prix est bon. » pour moi, déjà, ça envoyait le message au mois de septembre que, OK, le trio qu'on a là, c'est pas tout à fait celui qui est souhaité. Mm-hmm. Puis est-ce que c'est Mété qui sortirait? Je le sais pas. S'il serait le plus susceptible de sortir, mais on pourrait aussi voir un échange où le Canadien enverrait un défenseur gaucher plus un autre joueur en mm-hmm. retour d'un défenseur gaucher. Ça serait plutôt plausible parce que d'en sortir un parmi ceux qui sont là présentement, ben, ça serait probablement Mété ou Kulak, là, pour une raison financière.
Mais c'est intéressant ce que tu dis. C'est que Mété joue sa première paire. Il est plus 23 en carrière à jouer. Oui. À 85% du temps sa première paire. Et donc, le gars pourrait dégringoler, débouler l'escalier de 1 à 7.
Ben, honnêtement, je veux dire, quand tu regardes les premiers défenseurs gauchers dans toutes les équipes de la Ligue,
non, mais de 1 à 7, bon. Alexandre. De 1 à 7. Il y a toujours
bien des limites. Ça dépend de ce que tu cherches.
Non?
Ben, ça dépend de ce que tu cherches. Tu sais, moi, pour moi,
des petits défenseurs, là, il y en a pas mal dans la Ligue nationale.
Puis là, on a un préjugé défavorable.
En 1974, là.
On a un préjugé défavorable contre Victor Mété, mais je vous rappellerai que lorsque tu évolues sur la première paire de défenseurs, c'est habituellement tu affrontes les meilleurs joueurs de la Ligue nationale de hockey.
Fait que sur une troisième paire, Jérémy, est-ce que c'est logique de penser que le gars pourrait être encore plus à l'aise? Mettons,
je pense que oui. Je pense que oui, mais t'es pas obligé d'aller si bas que ça. Je pense que tu peux te garder dans ton top 4. Tu peux voir ce que t'as à faire. Puis là, écoute, on parle de Kulak. Est-ce que Kulak peut faire la job? Fait que donc, avant de commencer à faire des transactions, il faudrait peut-être un moment donné qu'on le tasse Mété et qu'on essaie Kulak.
Mais c'est Kulak, ça serait un peu surréaliste à le tasser. Je trouve, j'ai fait un petit décompte, là. Okay.
Vas-y,
dans
Alexandre.
La dernière année, il y a eu 38 défenseurs gauchers qui ont été échangés dans toute la ligue. Okay. Ça semble beaucoup. C'est pas beaucoup. C'est presque tous des gars des ligues mineures.
Ouais,
mais c'est tous des gars, genre Gustav Olofsson.
Des Brandon Davidson de ce monde.
Mais en vrai, il y a 14 de ces gars-là qui jouent dans la Ligue nationale. Okay? De ces 14 gars-là, le meilleur dans les 25 derniers matchs, de tous les défenseurs qui ont été changés l'année dernière, c'est Brett Kulak dans toute la Ligue nationale. Il a 12 points. Après ça, c'est Jake Muzzin à 11. Puis après ça, Marcus Pettersson à 10. C'est le meilleur. Là, si Marc Bergevin s'en va sur le marché des échanges présentement, là, dans les joueurs avec le meilleur potentiel qu'il pourrait trouver, c'est Brett Kulak qu'on n'est pas prêt à faire jouer, nous, avec chez Weber.
Il faut regarder la stratégie de
recherche.
C'est intéressant ce que tu dis, Alex, parce que Marc Bergevin, là, on regarde toutes les transactions qu'il a fait pour aller chercher un défenseur gaucher. Là. Quelques noms. Nikita Nesterov, Brandon Davidson, Jordy Benn, Rinat Valiev, Gustav Olofsson, dont je vous dis que vous devez surveiller, Brett Kulak et Mike Riley.
Joe Morrow, vous en souvenez-vous?
Sont les défenseurs. Oui. Ben voilà, ce sont les défenseurs gauchers.
Barberio.
Comme joueur autonome, il y a Osler, Chariot, Ouellet, comme joueur autonome aussi. Il y en a d'autres.
Tu parlais d'échanges.
Je parle des échanges. Donc, ce sont le point commun de tous ces défenseurs-là, c'est que ce sont des défenseurs que Marc Bergevin espère qu'ils ont été mal évalués par son équipe. C'est un peu des long shots. Tout ce monde-là, ce sont des long shots en ce moment. Rappelez-vous Mike Riley quand il est arrivé à Montréal. Là, pendant 10 matchs, là, on disait que c'était le plus grand vol depuis Ocean's Eleven. Là.
Et... Non, mais c'est le meilleur potentiel de la gang, sauf qu'il y a trop de crampes au goût de Claude Julien qui peuvent lui coûter des matchs. Il l'aime pas.
Il y a des raisons.
À mon avis, Kulak est plus complet que Riley.
Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Surtout sur l'aspect
défensif. Moins d'attaque, en tout cas. Riley sortir de la zone, là, je vais te dire.
Tous ces défenseurs-là sont des long shots.
Oui.
Personne n'a jamais réussi à s'établir. Et Benjamin est allé les chercher, puis il a dit il y en a un quelque part là-dedans qui va réussir à se développer. C'est jamais arrivé.
Mais c'est un club de long shots. Je veux dire, le repêchage fournit pas de joueurs, ça fait 20 ans, 15 ans.
Ben c'est, le problème est là, en fait, c'est les années perdues sous Sylvain Lefebvre en développement à Laval. Là. C'est ça qui a coûté cher. Parce
là, je te trouve vraiment.
Ben, c'est le manque de qualité.
Ben,
manque de qualité de joueurs aussi. Là.
Je sais pas si t'arrives avec un bidon de gaz en disant ça, mais moi, t'extrais pas de l'eau d'une roche. Le Rocket de Laval, après que Sylvain Lefebvre ait quitté, ils ont fait les séries, hein?
Non.
Ah non, tu dis quoi, ils n'ont pas fait
les séries. Non, mais c'est pas le nombre de joueurs, en fait, ben qui viennent du Rocket, qui jouent présentement avec le Canadien. Sauf erreur.
Ah, mais Alexandre, je veux dire, pas de qualité, Alexandre. Je te donne une roche, fais-moi un défenseur de la Ligue nationale. Tu sais, je sais pas, je trouve ça de faire porter le blanc à Lefebvre, Jérémy, t'as peut-être de quoi
Non, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord avec ça du tout. Écoute, c'était pas le gars le plus passionnant à écouter non plus, mais je suis convaincu que ses qualités d'entraîneur étaient sublimes parce qu'il est là, parce qu'il a joué à la game, puis je pense que c'est ce que tout le monde a entendu. Mais quand t'as les joueurs que t'as sous la main, tu fais, comme Claude Julien a dit, tu sais, je compose avec ce que j'ai sous la main, mais c'est ce que Sylvain Lefebvre a dit. Moi, je veux te dire une chose. Hier, je regardais le match, là, face au Wild du Minnesota, puis je voyais Souter qui était là, puis je me disais, tu sais, Souter a joué avec c'était avec Nashville, je me trompe pas, puis il a joué avec chez Weber avant qu'il soit échangé. À s'en aller avec le Wild du Minnesota, puis je me disais, ouais, le vieux, là, à 34 ans, il a 34, hein, je me trompe pas, Souter. Je l'essaierai.
Ça sera pas long.
Ah, oh, il a 34, je vais aller checker. J'allais regarder. Il a 34, il est encore sous contrat jusqu'en 24-25, et ce club-là ne va nulle part. Et tu sais que.
Mais ça irait vraiment contre courant.
Il gagne 7,5 millions de dollars pour les 8 prochaines.
Attendez une minute. OK, je suis d'accord avec vous autres. Le Wild du Minnesota va nulle part. Pourquoi? Parce qu'on a congédié. En fait, Fletcher est parti, Paul Fenton a été congédié. Le Guérin arrive, puis la seule chose qu'on voulait pas faire, c'est reconstruction. C'est un des plus vieux clubs de la Ligue. Je me dis, tu sais, à court terme, là, si tu as besoin d'aller chercher une paire solide, là, tu viens de monter ta crédibilité de 800% si tu amènes un gars comme Souter. Je dis bien, écoute, c'est un long shot, mais un gars comme Souter qui a déjà joué avec Shea Weber, why not Coconut? Moi, je le fais, puis c'est pour ça que je suis pas DG dans la Ligue nationale.
Il va avoir 30.
Ouais. Une belle émission, ça.
J'ai beaucoup aimé ta conclusion, Jérémy.
Hey, c'est 6 ans à 7,6 millions.
Il va finir à 40 ans, il va avoir 7,5 millions. Juste dire, le Canadien, présentement, de tous les clubs de la Ligue, là, si on calcule l'argent dépensé pour le gardien et les défenseurs, c'est le deuxième club qui investit le plus dans sa défense, incluant le gardien, de toute la Ligue après Pittsburgh. Je vois pas qu'il ajouterait un gars de 7,5 millions.
Si t'inclus Laval. Ridicule. Non, mais tant qu'à être dans
j'inclus
cette...
J'inclus même pas Carl Osner là-dedans.
Tant qu'à être dans cette lignée de pensée-là, puisqu'on on est passé à la phase d'humour du balado, il y a des rumeurs à l'effet que le Canadien assiste à beaucoup de matchs via Sean Burke des Sharks de San Jose. Et là, évidemment, qu'il y a un journaliste qui a fait 1-1. Ça donne qu'il y a un défenseur qui a un début de saison difficile avec les Sharks, qui est à moins 8, qui a 32 ans, qui lui aussi en a pour plusieurs années de contrat, très bien rémunéré encore. En l'occurrence, Marc-Édouard Vlasic. Marc-Édouard, son contrat est à 7 millions sur le cap salarial, à 7 millions par année, jusqu'en 2026, les gars. Est-ce qu'on l'accueille? Souhaitez-vous qu'on fasse ça?
Moi, je vais prendre Souter.
On a compris, Jérémy.
Non, mais ceci dit, ce qui est intéressant dans le match d'hier du Wild, il y avait vraiment beaucoup, puis pas juste des dépisteurs, des gens d'autres équipes, il y avait aussi des directeurs d'autres équipes. J'en ai compté pour 16 équipes hier quand même. C'est plus de la moitié de la Ligue. C'est plus que ce qu'il y avait à la date limite des échanges l'année dernière. Ils peuvent être là pour regarder le Wild, qui honnêtement va sûrement être le premier club vendeur de la Ligue. Là, c'est vraiment les chaudrons de la Ligue. Mais peut-être aussi le Canadien. Il y a quand même deux personnes des Ducks. Les Ducks, c'est une équipe avec beaucoup de défenseurs gauchers et qui auraient besoin aussi d'aide en attaque. Ils ont Cam Fowler, il y a Hampus Lindholm, Brandon Goulet, Del Zotto, Larson. Et je pense pas que les trois derniers, c'est des options. Ça se dit, Hampus Lindholm gagne 5 millions par année. Mm-hmm. C'est beaucoup, mais peut-être qu'il pourrait être échangé aussi contre un joueur qui vaut plus cher chez les Canadiens. Ça peut être une option.
Jean-François, je te sens en pleine réflexion.
Ben, j'aime bien un peu Lindholm, ceci dit, et Alain Chéné, ancien dépisteur en chef des Ducks, m'en avait parlé en termes très, très élogieux. Vlasic, ta question de tantôt, Mario, j'ai beaucoup de difficultés à me faire réaliser que les Sharks vont laisser partir si rapidement Marc-Édouard Vlasic. Je comprends que c'est un début de saison pénible.
C'est encore un pilier, tu penses, pour eux, même si... Puis encore là, on n'a pas décortiqué les matchs. Là, non, il y a moins 8, puis on ne sait pas s'il a hérité de surnom, de mauvais changement lui aussi. T'sais.
Exactement, puis en plus, c'est un gars qui est bon défensivement. Je veux dire, avec Weber, tu as besoin d'un gars qui relance l'attaque. Tu n'as pas tant besoin d'un gars, oui, qui soit bon défensivement, mais qui est capable de sortir la rondelle rapidement. Je regarde, là, il y a d'autres profils. Là. J'ai parlé de Souter, OK, j'ai fait des blagues. Mais tu regardes un gars comme Darnell Nurse, avec les Oilers d'Edmonton. C'est un gars qui relance l'attaque, gros physiquement. C'est un gars qui est capable de prendre du jeu en défensive, qui est capable de jouer sur ta deuxième vague d'avantage numérique. Tu sais, c'est le profil qu'on doit aller chercher, mais en fait, je pense qu'en l'ensemble des clubs de la Ligue nationale de hockey cherchent ce profil-là. Fait que donc, ça explique pourquoi c'est un peu difficile pour Marc Bergevin.
Ceci dit, il y en a des gars qui peuvent être disponibles. Tu sais, on pense Shane Gottesbeer, un très mauvais début de saison à Philadelphie. Ils ont quand même 4 défenseurs gauchers dans leur line-up qui jouent à tous les soirs. Ça, c'est une option. On peut penser à Yalmarsson,
l'ancien des Hawks.
H-J-A-L-M, c'est facile à prononcer.
Pour moi, c'est
Alex.
Comme dans Charivari, tu mélanges.
Tu parles de l'ancien des Blackhawks?
Oui, exactement. Ça peut être une option. Moi, deux joueurs que j'aime particulièrement, il y en a un qui est à Chicago, c'est Nicolas Beaudin, 20 ans, un défenseur offensif, excellent coup de patin, bonne vision de jeu. C'est aussi un spécialiste de l'avantage numérique, un choix de première ronde. Je suis convaincu que le Canadien, en fait, il fitterait vraiment bien dans le Canadien. Je pense que c'est un joueur qui est prêt aussi à faire le saut dans la Ligue nationale de hockey. Sinon, il est pas loin de le faire. Le problème, en fait, c'est que cet été, le Canadien a fait un échange avec les Blackhawks. Ils sont allés chercher Andrew Shaw. Ils connaissent assurément aussi le prix à payer. Et les Blackhawks, ils ont vraiment besoin de joueurs de centre. Ils ont aucune profondeur à cette position-là. Le Canadien a trois jeunes centres. Suzuki, Peeling, Kotkaniemi. Et au feeling, si le Canadien veut avoir un joueur de cette trempe-là comme Nicolas Baudin, il va falloir qu'il paye. Est-ce que le Canadien présentement est prêt à sacrifier un de ses meilleurs espoirs? Je ne pense pas. Même chose pour Pierre-Olivier Joseph. Lui, il est un petit peu plus loin de la Ligue nationale, qui joue à Pittsburgh, qui a aussi un profil offensif qui peut être intéressant. Pittsburgh est bourré de défenseurs gauchers.
Il y en a des très jeunes joueurs, par exemple, Alexandre.
Oui, 20 ans. 20 ans. Mais je pense que Baudin est pas loin de.
Mais là, tu parles-tu d'un partenaire à Shea Weber? Là?
Ben, quelqu'un qui peut rentrer dans le top 6. Moi, j'enverrais peut-être Kula qui joue avec Weber, puis rentrerait quelqu'un à la place. Mm. Mais ce sont des joueurs qui ont le potentiel, en fait, de venir à Montréal. Mais si on pense à Zach Werenski, Josh Morrissey, Cam Fowler, les équipes n'échangeront pas des joueurs comme ça, à moins d'être vraiment hors des séries puis dans la construction. Mais des équipes qui ont ce profil-là dans la Ligue, il n'y en a pas 22. Là.
On est peut-être rendu au moment aussi où on discute d'un peu tout ça. Puis c'est évident que si Marc Bergevin va chercher un défenseur gaucher, t'sais, ça prend deux personnes pour danser. Ouais, là. Il va avoir des joueurs, il va avoir du real estate à offrir, comme on dit. Alors, est-ce qu'on... Mais là, question ouverte, est-ce qu'on en est chez le Canadien à attendre qu'un joueur se développe? Parce que si Victor Mettez...
À gauche, ça va être long, Jean-François.
Il y a Romanov, mais, Mathias Norlinder. Je reviens sur...
Leskinen n'est pas méchant aussi. Tu as parlé du Suédois. Là.
Je reviens sur Gustav Olofsson, qui est un joueur qui jouait avec le Wild du Minnesota, qui a joué dans la LNH, dont tout le monde m'a toujours parlé en termes très élogieux.
Puis lui, il a manqué une année à cause d'une blessure.
Une année complète qui a manqué.
Ouais. Fait que c'est un gars qu'il faut garder à l'œil. Puis Leskinen n'a pas un mauvais début de saison à Laval. C'est un gars qu'on a donné un contrat, si je ne me trompe pas, à sens unique. Donc, on pense que c'est un gars qui a le potentiel. Mais qui a posé la question? Est-ce qu'on attend qu'un gars se développe?
C'est moi.
Alors, peut-être que ces gars-là vont popper. On peut pas l'exclure, tu sais, mais il faut les repêcher, ces gars-là. Puis le Canadien en a repêché des défenseurs gauchers. Ils se sont juste trompés. Mmh. Parce qu'au lieu de repêcher des bons joueurs, ils repêchaient un gabarit en Tenordi. Beaulieu est peut-être la déception. Dans le repêchage, je pense qu'on s'attendait à ce que Beaulieu devienne un meilleur joueur que ça.
Il aurait dû être meilleur, oui.
Il aurait dû être meilleur.
Il aurait dû être meilleur, mais écoute, je pense qu'il fallait l'évaluer entre les deux oreilles aussi par moment. C'était peut-être
exact.
Un petit peu
mais
plus
ça se dit aussi, des fois, tu y vas avec le meilleur joueur du monde. Cet été, c'est un bon cas. Là. Ils ont repêché Cole Caulfield, qui va probablement être un très bon joueur, je l'espère en fait, pour les partisans. Tout de suite après, ou à 2-3 rangs après, les Jets ont repêché Ville Heinola, qui a 18 ans, qui est déjà dans l'alignement et qui va très, très bien en ce début de saison avec les Jets. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, de vouloir prendre le meilleur joueur disponible, ben, ça fait en sorte que des défenseurs gauchers...
Ils l'ont pas toujours fait, cependant, de prendre toujours le meilleur joueur disponible, puis on se reposera la question dans 3-4 ans. Vous dites, ferais-tu Ketchuk, Kotkaniemi un contre un aujourd'hui?
Ben aujourd'hui.
Ouais, non,
aujourd'hui,
mais on ne sait pas.
Au moment où on se parle.
Non, mais assurément que oui, aujourd'hui.
Tu sais, encore là, tu sais, imagine là, la crédibilité de l'organisation tourne autour de l'espoir qu'on fonde dans ces jeunes-là. En ce moment, ça tient à ça. Ah, ça tient pas à leur performance puis d'avoir fait série souvent dans les dernières années. Fait qu'imagine s'ils se sont trompés sur leur choix actuel.
Ouais.
On ira pas loin, là. C'est pas impossible. Mais je dis pas qu'ils se sont trompés. J'ai encore confiance en Kotkaniemi. Je vois des belles affaires, mais.
Je pense pas que ça soit trompé, Mario. Puis, selon moi, pourquoi ils se sont pas trompés? Parce qu'ils avaient vraiment besoin d'un joueur de centre. Puis, dans le cas de Kachuk, je sais pas si ça fit avec l'organisation du Canadien. C'est un gars qui est...
On a trop de gars durs dans le coin, nous autres, Jérémy?
Non, je suis d'accord. Non, tu me prends, tu me passes d'un patin. Je le sais.
Mais Kotkaniemi, il a pas atteint son plein développement, là.
On est d'accord.
23, 24 ans, là.
On peut attendre. Je veux juste vous dire, moi, le Canadien, c'est un club, je regardais encore une fois le match hier, puis c'est un club qui se donne pas de marge de manœuvre. Étant donné que t'as pas, tu sais, il y a rien de spectaculaire comme talent chez le Canadien, ce club-là est tellement tout le temps obligé de bien jouer. Je parle du collectif, là, les attaquants, les défenseurs, tu sais, d'avoir cette symbiose collective, ils sont obligés d'être très bon tout le temps pour espérer gagner. Aussitôt que son ordinaire, il n'y a pas de McDavid qui peut arriver de nulle part puis marquer avoir une soirée de 5 points. Là. Ça arrive pas chez les Canadiens. Fait que donc, je trouve que ça met tout le monde sur la sellette quand tu as un club qui possède pas de talent extraordinaire. Fait que veux pas, nous, on évalue des gars qui sont ordinaire, dans un club qui est ordinaire, mais qui peut accomplir de belles choses
quand ils jouent ensemble.
Bien.
Ouais.
Exactement. Ouais,
ouais,
exactement.
Ça, je te rejoins vraiment là-dessus. Tu sais, quand je parle d'intangible, de chimie, d'une équipe, tu sais, je pense que ça compte. Tu sais, il y a des limites, mais moi, je suis convaincu que c'est un plus. Puis, pour compléter, moi, ma pensée là-dessus, avec Michel Tremblay, hier, on a fait l'exercice d'examiner les défenseurs gauchers, puis pour avoir la même réponse qu'on a déjà servi, mais si tu repêches pas, tu vas courir après, puis tu vas payer le gros prix. Juste dans l'Est, là, regarde ça, Boston. Tu sais, ils ont Chara qui ont eu dans le temps, mais depuis ce temps-là, tu sais, il y a Krug, il y a McAvoy, c'est des gars qui ont repêché. Buffalo, t'as Dallin, c'est sûr qu'ils repêchent en premier, ils l'ont repêché. Ouais. Caroline Slavin s'est repêché. Columbus Werenski s'est repêché. Detroit Chalowski s'est repêché. Floride Madison et Uyghur, c'est repêché. T'sais, je vais pas tous les nommer, mais c'est partout pareil, les gars. Chabot à Ottawa, il est-tu bon? Hey, je le regardais jouer contre Vegas hier. Les gars, pour vrai, là.
C'est un chic type en plus.
Non, mais bon de même, là. Je pense que je vais même dire qu'il va être le meilleur défenseur de la Ligue nationale. Ouais. Ça sera pas bien long.
Je suis d'accord.
Puis je pense qu'il va être le meilleur défenseur de la Ligue pour un bout
mais
de temps.
Imaginez de si les Sénateurs mettent la main sur Alexis Lafrenière en plus de Thomas Chabot.
Ouh,
ça va commencer à être intéressant.
Oh, je pense que ton ça gars va s'acheter un chandail des Sénateurs. Sais-tu? Peut-être que moi aussi.
Mais tu sais, les boys, là, on parle de Chabot, on dit que c'est un talent exceptionnel, tu sais. Puis je dis pas que c'est un talent exceptionnel, mais quand Romanov va s'amener avec le Canadien, c'est un défenseur gaucher. Tu sais, c'est-tu l'année prochaine, c'est-tu l'autre année, là, Marc était faire un tour du côté de la Russie, puis il a pour essayer de négocier. Là, à un moment donné, si le gars y arrive, là, ça peut être quelqu'un qui donne un coup de main à pas mal de monde, ça. Il a du talent, il est capable de passer à rondelle, puis il est assez solide défensivement.
Et si Romanov devient aussi bon que Chabot, les gens vont s'acheter un chandail de Trevor.
Mais la bande est plus proche en Amérique.
Je vais faire une prédiction, ça n'arrivera pas. Là. Il n'ira jamais achevé de Thomas Chabot.
Sérieusement, Thomas Chabot,
il n'ira jamais achevé.
Top 10 de la Ligue déjà. Non.
C'est sûr. Mais entendons-nous que chez les Canadiens, un gars comme Romanov, là, parce qu'on a le débat du défenseur gaucher, il va faire la job. Là. Ce gars-là va faire la job.
C'est un défensif, Jérémy. Puis tu sais quoi, je le dis pas pour argumenter. Je dis juste, je vais te dire la même affaire que sur Kotkaniemi. Ça repose, la crédibilité de cette organisation-là repose sur l'espoir ou la conviction que ces gars-là vont être bons. Mais je veux dire, tant qu'on ne l'aura pas vu jouer vraiment, il est bon, il va être bon. Puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui disent qu'il va être bon, mais il y a 4 points en 43 matchs.
Mais Mario, je vais te faire une petite passe d'un patin, moi aussi. Je regarde le World Junior, j'ai regardé Romanov, puis je ne l'ai pas trouvé super défensif, là. J'ai trouvé un gars qui était capable d'être très, très bon offensivement. Puis, j'entendais les conversations de Marc Bergevin, puis il disait, là, présentement, ce qu'on fait du côté de la KHL, c'est qu'on négocie serré, puis on veut que Romanov reste du côté de la KHL. On lui coupe son temps de jeu, on change peut-être son pairing avec les défenses avec qui il évolue présentement. Tu sais, je ne sais pas, je suis pas là-bas en Russie, je ne le vois pas, mais moi, ce que j'ai vu de lui au World Junior, si tu me dis que c'est un gars uniquement défensif, ben là, on va s'obstiner, parce que je suis pas d'accord
avec toi. Ce qui est vraiment intéressant avec Romanov, c'est que c'est un cas de gamble un petit peu. T'sais. Il y a une bonne valeur présentement, je pense, sur le marché des échanges.
Y a-t-il une meilleure valeur avant qu'on l'ait vu dans la Ligue qu'une fois qu'on va l'avoir vu?
C'est un petit peu mon point. Là, non, mais est-ce que t'es mieux de l'exposer à la Ligue, finalement, de montrer toutes ses faiblesses, ou tu laisses tout le monde sous l'impression du championnat junior? Pour moi, je pense qu'il y a une bonne valeur d'échange pour un club là, qui n'aspire pas de suite aux séries. Un petit enjeu avec le Canadien présentement, c'est... Pour Julien particulièrement, et même pour Benjamin, c'est qu'il doit faire les séries cette année. Là. Puis je veux dire, Romanov, il va peut-être venir jouer une game à la fin de l'année. Ils n'ont pas le temps ou le luxe d'attendre jusqu'à la fin de l'année l'arrivée de Romanov. Mais si Romanov, Julien, un joueur présent, peut t'amener un bon joueur en retour, je pense
qu'ils ont sorti ça au deuxième tour du champ gauche. Personne ne veut venir le Canadien avec Romanov. Fait que tu penses qu'ils vont l'échanger?
Ben, ça dépend. Jamais dans son retour. Si t'as un très bon joueur en retour, qui va t'aider immédiatement, je pense que oui.
Le besoin immédiat va peut-être amener à avoir le dessus sur le besoin du futur parce que le présent va. En tout cas, je sais pas.
Il faut qu'il y ait un défenseur gaucher en retour, là. On s'entend.
Mais croyez-vous qu'on va assister à une transaction d'ici peu et faisant suite aux commentaires de Claude Julien? Puis aux intentions manifestées au printemps passé de Marc Bergevin d'aller chercher du renfort et en attaque et à la ligne bleue. Pensez-vous qu'on va avoir de quoi se produire, les gars, pour finir là-dessus? Oui.
J'ai l'impression que Claude Julien a rendu la conclusion du match. Ça peut pas être autre chose qu'une transaction, après ce qu'il a dit. C'est impossible.
Moi aussi, je pense qu'il va y avoir une transaction. Le Canadien veut plus, probablement, présentement, qu'un autre partenaire. Mais à un moment donné, il va avoir un milieu, il va avoir un petit peu de pragmatisme là-dedans, de réalisme. Je pense clairement que le Canadien va faire
Mais Claude Julien a ouvert le jeu. Quand il l'a dévoilé,
parce qu'il est au courant que...
Non, mais
OK.
c'est, ouais, y a plus le choix, là.
Ouais, OK, moi, je serai le gars qui va cracher dans la soupe.
Ah oui, non.
Je regarde ce que Marc Bergevin a fait. C'est très rare qu'il négocie, qu'il va faire une transaction durant la saison. Il croit à la chimie d'un groupe. Il voudra pas séparer ça. Je pense que c'est un gars qui peut peut-être attendre à la date limite des transactions. Mais s'il y a quelque chose, ça peut être à la pause du temps des fêtes ou la pause d'une semaine. À un moment donné, on a une pause. Mais là, présentement, pas convaincu que Marc Bergevin va bouger pour essayer de briser peut-être quelque chose dans son équipe.
À court terme, ça serait vraiment difficile. Il n'y a presque pas eu d'échange à la Ligue nationale depuis 3 mois. Là, je pense qu'il y en a eu 3 ou 4, puis c'est presque tous des joueurs de soutien, sauf l'échange entre Caroline puis Saint-Louis. Mais...
Puis est-ce qu'il y a des joueurs supérieurs à tout ce qu'on a à gauche, dont Mété, de disponibles? Et c'est quoi le prix pour des gars supérieurs à ce qu'on a?
En fait, est-ce qu'il y a des gars supérieurs? La réponse, c'est oui. Est-ce qu'on a ce qu'il faut? La réponse, c'est oui. Le Canadien a vraiment beaucoup de jeunes espoirs, particulièrement au centre. Est-ce que Marc Bergevin veut transiger un de ses joueurs de centre pour un défenseur gaucher? J'en doute.
Les gars, j'ai l'impression que... Alors, je vous la lance comme ça. Dallas n'a pas un gros début de saison. Si Radulov ferait devenir disponible...
Je pense que les ponts sont brûlés.
C'est le bloc nostalgie. Ça, c'était le bloc nostalgie. OK, là, un jeu de rôle. Tiens, c'est une nouvelle section de notre balado, jeu de rôle. Et je vous demande de jouer. Tiens, Jérémy, je sais que t'as un côté humoristique et bon comédien. Je te demande de nous incarner Bruce Boudreau quand il prend connaissance des propos de Jason Zucker après le match hier, qui dit que hey, ça n'a pas d'allure ici. Bruce, va falloir qu'il soit meilleur. Tout le monde va falloir qu'il soit meilleur, mais Bruce Boudreau va falloir qu'il soit meilleur, puis nous autres aussi, va falloir qu'on soit meilleur. Alors, comment Bruce pense à réagir en prenant connaissance?
Mon imitation, c'est « Je deviens Bourgogne ». Parce que c'est ce que Bruce Boudreau fait derrière le banc, oui. « Je deviens Bourgogne ». Sincèrement, lui, là, ses minutes sont comptées avec ce club-là. Ça correspond pas. Ce que j'ai vu hier sur la patinoire, c'est un groupe qui est désorganisé, puis qui a pas d'intention. Tu sais, un club qui a pas d'intention, là, qui va là juste pour jouer, c'est ce qu'on a vu du Wild du Minnesota. Puis malheureusement, écoute, Boudreau a pas le contrôle de cette chambre-là. Puis les joueurs, je suis pas convaincu qu'ils sont bien contents d'avoir Boudreau. Je pense que les propos de Zucker l'ont résumé.
C'est un match hier qui m'a rappelé celui des Ducks d'Anaheim à la fin de la saison dernière, à un moment où, de toute évidence, on voulait le départ de Randy Carlyle, l'entraîneur. Ouais. Ça m'a beaucoup rappelé cette performance-là. Alors, de toute évidence... Les joueurs du Wild ne jouent pas pour Bruce Boudreau.
Le problème, en fait, du Wild, à part que c'est vraiment une équipe médiocre, le problème, c'est que tu vas rentrer quelqu'un dans l'alignement puis il risque de pas être ben meilleur que Boudreau parce qu'il manque vraiment de talent là, dans ce club-là.
Si t'es Bill Guérin, tu fais quoi, Alexandre?
Pour l'instant, en fait, je me demande si je continuerai pas avec Boudreau.
Je suis d'accord avec toi, Alex.
Pique du nez, puis
je suis d'accord.
Va te chercher un bon billet de loterie.
Sérieusement, ils feront pas les séries, ils le savent.
Et à la fin de l'année, essaie de changer le plus possible. On en parlait, un peu plus tôt avant de commencer le balado. Le Wild a des contrats qui sont très difficiles à échanger. C'est des gros contrats qui valent cher. Et presque toute l'équipe est sous contrat pour l'année prochaine. C'est pas une situation qui est facile à changer chez le Wild du Minnesota.
Il y a 28 millions de commis pour l'année 2024. Pensez-y, là. C'est-à-dire, c'est déjà beaucoup d'argent. Moi, je pense que dans une situation comme celle-là, écoute, tu vas rentrer là, le meilleur coach junior qui existe. Il amènera pas le Wild aux séries. Ça va déjà être une tâche à son dossier en commençant.
Ben moi, je regarde, tu as quand même des gars de talent. Là. Greenway, c'est un très, très talentueux, gros, grand, fort. On l'a vu, il a contrôlé la rondelle.
Ouais, c'était le meilleur joueur hier du Wild.
Ah, il était bon. Moi, personnellement, c'est un des très bons joueurs qui joue avec Équipe Canada. Pas Équipe Canada, mais avec les Américains. Mm-hmm. Tu as Zuccarello qui a du talent, qui est blessé, malheureusement. Tu as Parisé qui a du talent. Tu as Stahl qui a ralenti. Tu as Koivu qui en a à ses dernières années. Moi, je serais pas surpris, puis encore là, c'est dans ma grande boule de cristal, et ce qui explique pourquoi je suis pas directeur général dans la Ligue nationale, je serais pas surpris de voir un Bill Guérin aller chercher un vieux chum comme un genre Doug Waite, l'amener en arrière du banc pour dire « Hey les boys, parce que c'est un club d'expérience, et regarde, moi là, puis vous autres, on va s'arranger pour essayer d'avoir du plaisir, parce que la notion plaisir est importante, ce club-là a pas de fun. » Puis avec un Doug Waite, comme il a fait un peu avec les Islanders de New York, dire « OK, let's go, les boys, on est capables. Regardez les Blues de Saint-Louis l'année passée, ce qu'ils ont fait. C'est sûr qu'ils n'ont pas le même talent. Je suis d'accord avec vous. »
Je suis content que tu amènes la comparaison
des Blues.
J'ai hâte
Blues
de voir. Parce que, imaginez, mettez-vous dans la tête des dirigeants d'équipes comme celle-là. C'est là où faut que tu crois vraiment en ce que tu fais puis que ton évaluation doit être juste. Parce que tu peux liquider. Imaginez, les Blues auraient pu liquider leur équipe l'an passé. Là, on parlait de rumeurs de transactions. Ils étaient en janvier, début janvier.
Ouais, les Blues
ils étaient au dernier rangs. Je sais que sur papier, c'était une meilleure
les Blues,
équipe.
Là, ils ont vraiment beaucoup plus de talent. Je m'excuse, mais tu sais, le Wild, tous les joueurs que tu as nommés, Jérémy, je les avais dans mon pool en 2006.
Puis, À part Greenway.
Non, mais tu sais, sérieux, là, Zach Parise, 35 ans, Zuccarello, 32, Koivu, 36, Tal, 34. Les défenseurs, ils n'ont aucun défenseur en bas de 26 ans dans l'alignement.
Mais c'est une équipe qui a essayé de prendre des raccourcis par des transactions puis des gros coups, puis ils n'ont pas gagné, puis ils se ramassent. Ben, Martin Enzo, c'est pas eux autres qui ont donné le premier choix, puis pour Martin Enzo.
On voit pas souvent des équipes tankées dans la Ligue nationale. Là. Checker ça, aller cette année, ça va être spectaculaire.
C'est ça qu'on voulait du Canadien aussi. Hein. On voulait des fois sauter, faire des raccourcis, puis vous voyez, des fois, c'est pas toujours la meilleure des décisions. Puis le Wild, malheureusement, paye le prix aujourd'hui.
De l'autre côté, ce que vous venez de dire m'interpelle parce que c'est vrai que les Blues de Saint-Louis, oui, sur papier, avaient un meilleur club que le Wild, mais qu'est-ce qui a changé? Mike Hill est parti. Craig Berube est arrivé. Ça a complètement changé.
Ça n'a pas été immédiat.
Je suis d'accord avec toi. Ça a pris quelques mois, mais je veux dire.
Mais le nouvel
entraîneur doit quand même mettre son empreinte.
Ouais. Non, il y a carrément du mérite, Jean-François, puis je ne le disais pas en opposition à ce que tu disais, mais eux-mêmes l'ont raconté que ça n'a pas été. Tu sais, c'était pas un coup de baguette
mais
magique.
Ça dit, ils ont Tarasenko, ils ont O'Reilly, quand même des bons jeunes joueurs. Là,
savez-vous quand est-ce qu'ils ont senti que le vent tournait juste rapidement, Jérémy? C'est apparemment que c'est... Puis toutes les équipes le font, c'est le voyage des pères avec le club l'an passé. Ah, c'est là que ça a viré de bord. Notamment avec Ryan O'Reilly et son père. En tout cas, il y a des reportages là-dessus, mais je te laisse enchaîner. Je voulais juste glisser ça dans la conversation.
Ce que je voulais ajouter, c'est que le gardien de but a fait toute la différence, selon moi. Tu sais, t'as beau avoir Berube qui est là, puis tout le monde, Chief, on t'aime, Chief, mais gardien de but qui était là arrêtait rondelle. Tu sais, en partant, si lui te sauve les fesses à chaque match, ça t'aide à gagner des matchs. Tu sais, puis il n'y a pas un pied de céleri, là. Dominique n'est pas un pied de céleri chez le Wild du Minnesota. A déjà gagné plusieurs matchs. Je ne sais pas ce qui peut se passer. Je suis d'accord. Je le répète, c'est pas la même base de talent. Mais quand la notion de plaisir n'est pas là, c'est ça qui cause beaucoup de troubles à un club dans la Ligue nationale. En fait, c'est ce qu'on a vu chez le Wild.
En fait, aussi, quand on regarde le même, il y a des études qui ont été faites là-dessus. Là. Les équipes ont souvent un facteur rassembleur. Les équipes championnes, tu sais, par exemple, beaucoup de joueurs qui viennent d'une même région, beaucoup de joueurs qui ont joué dans les mêmes équipes juniors, beaucoup de joueurs qui ont le même âge. Puis je regarde les Blues, là, des joueurs du même âge, même de la même année, il y en a beaucoup. Tu sais, Tarasenko, O'Reilly, Schwartz, Shen, Pietrangelo, Pareko sont tous dans la même année ou à une année civile près. Là. Ça compte, ça aussi. Quand on parle de chimie de joueurs, tu sais, chez le Canadien, il y a trois groupes de joueurs. Là. Le groupe autour de Weber, le groupe autour de Domi, le groupe autour de Kotkaniemi. C'est une équipe qui était plus unifiée, celle des Blues l'année dernière. Là.
Et un autre élément qui compte quand on parle des Blues de Saint-Louis par rapport aux comparaisons avec le Canadien de Montréal, parce que vous savez que Marc Bergevin nous dit, à Montréal, on peut pas faire ça, finir ou rater les séries. Le pire, c'est qu'on est en train de le faire. On les a ratés 3 fois sur 4 dans les dernières années. Et ça pourrait aller à 4 sur 5, sait-on jamais. Alors, si c'est pas ça qu'on est en train de faire. Mais d'autre part, c'est que les Blues de Saint-Louis, tu sais, comme élément de comparaison, c'est une équipe championne de la Coupe cette année qui n'a pas repêché à un haut rang de repêchage depuis très, très longtemps. Le plus haut choix de l'organisation, je parle pas d'un rescapé d'une autre organisation, c'est Jaden Schwartz, 14e choix au repêchage. Alors donc, une équipe qui n'a pas repêché premier, qui n'a pas gagné à la loterie, peut gagner la Coupe Stanley, pour ceux qui pensent que c'était pas possible. Non, mais je le dis comme ça, parce qu'on se l'est fait servir souvent, celle-là. Là.
Il y a un élément rassembleur du côté des Blues de Saint-Louis, maintenant, chez les Canadiens, ça sera le but de Victor Mété. Voilà, ce sera l'élément rassembleur chez les Canadiens.
Le point tournant, c'est peut-être une belle conclusion, et juste sur la musique qui va nous envoyer tranquillement vers le week-end, où le Canadien va disputer 2 matchs sur la route, justement, à nouveau contre les Blues demain et contre le Wild du Minnesota dimanche. Les gars, lundi, quand on va se retrouver, la fameuse question de fin de balado, c'est combien de points sur une possibilité de 4, Monsieur Pratt?
4.
Oh! Un niveau de confiance très élevé au lendemain du premier but en carrière de Victor Mété. Jean-François Tremblay.
Le Canadien ne peut pas perdre contre le Wild 2.
Jérémy?
Je vais avec 2 sur 4. Défaite contre les Blues, victoire contre le Wild.
Moi, je pense que je vais te suivre, Jérémy. défaite contre qui? Défaite contre les Blues?
Oui, contre les Blues.
Contre les Blues. 2 sur 4, je ne sais pas où il les ramasse. Price, demain ou dimanche?
Dimanche?
Ouais. Demain. Le jour du Seigneur? Demain? Il n'y a pas unanimité, les gars. Il va falloir qu'on règle ça, mais là, c'est terminé pour aujourd'hui. Bonne fin de semaine. On se retrouve lundi pour une prochaine édition de Sortie de zone, en espérant que le Canadien n'aura pas trop de mal à sortir de la sienne en fin de semaine sur la route. Ciao tout le monde.